Chapitre 47. Et le repos des morts sera troublé. Lorsque Rand et Ourine les rejoignirent, Matt et Perrine étaient déjà en selle. Derrière lui, comme à un monde de distance, Rand entendit Ingtar crier.
« Au nom de la lumière et de Shenoa !»«
Où est Ingtar? Et que se passe-t-il »
cria Matt. Il avait accroché le corps au pommeau de sa selle, comme s'il s'agissait d'un banal instrument. La dague était glissée dans sa ceinture, et sa main pâle et tremblante serrait comme pour le protéger le manche orné d'un rubis de larmes. Rand frémit en voyant les doigts décharnés de son ami.
« Ingtar va mourir, » répondit-il simplement.
« Il faut aller l'aider !»
s'écria Perrine.
« Matt peut filer avec le corps et la dague pendant que nous... »«
Non, parce que Ingtar se sacrifie pour que nous puissions tous fuir. »
Enfin, il se sacrifie aussi pour ça.
Nous allons apporter le corps à Vérin. Puis Matt et toi l'aiderez à le remettre à qui elle voudra.
Comment ça, Matt et moi ?
Demanda Perrine. Rand talonna Rouquin, qui fila comme une flèche vers les collines qui entouraient la ville.
Au nom de la lumière et de Shenoa !
Cria de nouveau Ingtar. Comme pour lui répondre, un éclair déchira le ciel. Rand secoua les rênes de Rouquin. Puis il se coucha sur son encolure et se laissa emporter dans une course folle. Si seulement il n'avait pas eu l'impression d'abandonner Ingtar, et le sentiment de se dérober à son devoir.
Ingtar, un suppôt de ténèbres ? Je m'en fiche. C'était mon ami, un point c'est tout.
Si folle qu'elle soit, la cavalcade n'arracha pas Rand à ses pensées.
La mort est plus légère qu'une plume, et le devoir plus écrasant qu'une montagne. Tant de défis à relever. Et Gwen, le corps, Fane, Matt et sa dague, pourquoi ne viennent-ils pas les uns après les autres? Il faut faire face à tous en même temps, par la lumière. Et Gwen.
Rand tira si fort sur les rênes que Rouquin faillit s'étaler et s'arrêta sur une périlleuse glissade. Au-dessus d'une colline qui dominait Falm, le cavalier et sa monture venaient d'entrer dans un bosquet composé d'arbres tout déplumés. Matt, Perrine et Ourine les rejoignirent avec quelques secondes de retard.
« Comment ça, Matt et moi ?»
répéta Perrine.
« Où comptes-tu être pendant que nous apporterons le corps à Vérin ?»«
Il est peut-être déjà fou, »
marmonna Matt.
« C'est ça, Rand ? Tu as déjà perdu la boule ?»«
Vous trois, vous apporterez le corps à Vérin, »
dit Rand.
« Pour ça, vous n'avez pas besoin de moi. »
Tant de fils qui risquent d'être coupés. Tant de missions à accomplir. »
« Peut-être bien, »
fit Matt en caressant le manche de sa dague.
« Mais qu'en est-il de toi? Tu ne peux pas devenir fou maintenant. C'est impossible. »
Ne saisissant pas la moitié de ce que disaient les trois amis, Ourine les regardait avec des yeux ronds.
« J'y retourne, »
dit Rand.
« D'ailleurs, je n'aurais jamais dû en partir. »
Ces mots ne sonnèrent pas juste aux oreilles de Rand. Ce n'était pas ainsi qu'il fallait présenter les choses.
Je dois y retourner tout de suite.
Voilà qui était beaucoup mieux.
Et Gwen est toujours en ville, vous vous rappelez? Avec un collier autour du cou.
Tu en es sûr?
Demanda Matt.
Moi, je ne l'ai pas vue. Mais si tu le dis, ça doit être vrai. Nous allons tous apporter le corps à Vérin, puis nous reviendrons aider Gwen. Tu ne me crois pas capable de l'abandonner, j'espère?
Rand secoua la tête.
Les fils, les missions.
Son cerveau menaçait d'exploser comme une fusée de feu d'artifice.
« Lumière, que m'arrive-t-il ? » ?»«
Matt, Vérin doit te conduire à Tarvalon avec la dague afin de t'en libérer. Tu n'as pas de temps à perdre. »«
Sauver Egwen n'est pas une perte de temps !»
explosa Matt. Mais il serrait si fort la dague que son bras entier en tremblait.
« Aucun de nous n'y retournera, »
dit soudain Perrine.
« Pas de sitôt, en tout cas. »
Il tendit un bras en direction de la ville. La cour des chariots et les enclos à chevaux étaient noirs de soldats. Des milliers de guerriers en rang, certains à cheval, d'autres perchés sur des monstres et d'autres encore à pied, des fanions de couleur signalant les officiers. Des grolmes accompagnaient les humains, mais ils n'étaient pas les seules créatures de cauchemar présentes dans les rangs. Des oiseaux et des lézards géants se tenaient parmi les hommes, et Rand vit même des mastodontes à la peau grise ridée et aux longues défenses qui ne ressemblaient à rien de connu. Bien entendu, il y avait aussi un contingent de Suldam et de Daman.
Angoissé, Rand se demanda si Egwene était du nombre. Dans la cité, derrière les militaires, des lances de feu s'abattaient sur des toits et le ciel restait zébré d'éclairs. Deux monstres volants, leurs ailes parcheminées faisant 30 bons pieds d'envergure, tournaient lentement bien au-dessus de l'orage.
« Tout ça pour nous ?»
s'étonna Matt.
« Pour qui nous prennent-ils ?»
Rand faillit répondre, mais il réussit au dernier moment à s'en abstenir.
« Nous allons avoir du mal à fuir de l'autre côté, seigneur Rand, »
annonça Ourin.
« Des centaines de capes blanches approchent. »
Rand fit pivoter son cheval et regarda dans la direction qu'indiquait le renifleur. Une longue colonne de fils de la lumière avançait au milieu des collines.
« Seigneur Rand, »
reprit Ourin.
« Si ces gens-là voient le corps, il ne sera jamais remis à aucune Aes Sedai. Et nous risquons de ne plus le revoir nous-mêmes. »
« Et si les Séanchaniens étaient sur le pied de guerre à cause des capes blanches ?»
avança Matt.
« Si ça n'avait aucun rapport avec nous ?»«
Quoi qu'il en soit, »
dit Perrine,
« une bataille est imminente.
Et les deux camps peuvent nous tuer, même s'ils ne voient pas le corps. »
Rand ne parvenait pas à se concentrer sur les Séanchaniens ou sur les capes blanches. Une seule idée l'obsédait, sauver Egwene. Soudain, il s'avisa qu'il regardait fixement le corps. Tous ses compagnons aussi s'aperçut-il.
« Il devra être là pour l'ultime bataille, »
dit Matt.
« Mais il n'est jamais précisé qu'on ne peut pas l'utiliser avant. »
Il décrocha l'artefact du pommeau de sa selle.
« Ce n'est jamais dit, pas vrai ?»
Personne ne fit de commentaire. Trop absorbé par ses pensées, Rand n'y songea même pas. « Je dois y retourner. » Plus il regardait le corps, et plus cette évidence s'imposait à lui. Un peu tremblant, Matt leva le corps de Valère et prit l'embouchure entre ses lèvres. Une note limpide et pure comme de l'or, la couleur de l'instrument, retentit et se répercuta longuement entre les arbres, dans le sol et dans le ciel. Ce son d'une incroyable longueur envahit tout, comme s'il devait résonner jusqu'à la fin des temps. Venu de nulle part, la brume se leva. D'abord en fines volutes, puis par colonnes de plus en plus larges et opaques qui obscurcirent le jour tel un épais rideau. Jofram Bornald se pétrifia sur sa selle. Un son emplissait l'air, si doux qu'il eût donné envie de rire, et tellement mélancolique qu'il en avait les larmes aux yeux. Alors que cette note semblait venir de toutes les directions à la fois, le brouillard se leva, devenant de plus en plus dense à vue d'œil.
« Les Séanchaniens, un mauvais coup. Ils savent que nous approchons. »
Même si c'était bien trop tôt, car la ville restait fort lointaine, le seigneur capitaine dégaina son épée et ses guerriers l'imitèrent.
« À mon commandement ! Au trot ! »
Le brouillard occultait déjà tout, mais Falm se dressait toujours devant la légion. Dans son dos, Bornald entendit le martèlement rapide des sabots. Brusquement, le sol s'ouvrit devant le seigneur capitaine, une pluie de poussière et de cailloux retombant sur les premiers rangs. Sur sa droite, au cœur d'une nappe de brouillard impénétrable, une autre explosion retentit. Puis le phénomène se reproduisit sur sa gauche. Des éclairs s'abattaient sur la légion, tuant hommes et chevaux.
« À mon commandement ! Chargez !»
cria Bornald. Il talonna sa monture et se lança au galop, suivi par ses hommes survivants. Dans le vacarme et la fureur, Jofram eut le temps d'avoir un ultime regret. Avec cette brume, Billard ne pourrait pas raconter à Dane comment il était mort. Rand ne parvenait même plus à voir les arbres qui l'entouraient. Alors que Matt avait baissé le corps, la note continuait à retentir aux oreilles de son ami d'enfance. Et malgré le brouillard qui déferlait en une vague aussi blanche que la laine la mieux teinte, Rand voyait parfaitement ce qui se passait. Il voyait, certes, mais c'était aberrant. Falm flottait quelque part au-dessous de lui, des éclairs s'abattant dans ses rues tandis que des milliers de Séanchaniens se massaient devant ses murs. En même temps, Falm dérivait au-dessus de la tête de Rand, et là, des capes blanches chargeaient et mouraient alors que la terre s'ouvrait sous les sabots de leurs chevaux et crachait des flammes rugissantes. Plus loin, dans le port, des marins couraient sur le pont d'immenses bateaux carrés. À côté, sur un navire familier, des hommes apeurés attendaient eux seuls savaient quoi. Rand reconnut même le capitaine, Bale Domon. Affolé, il se prit la tête à deux mains. Si les arbres étaient invisibles, il distinguait parfaitement ses compagnons. Ourin, miné par l'angoisse. Matt, occupé à marmonner, comme toujours. Périne, presque calme, comme s'il avait toujours su qu'on en arriverait là un jour. Et la brume qui tourbillonnait.
« Seigneur Rand !»
cria Ourine. Il n'eut pas besoin d'indiquer une direction. Dévalant le rideau de brume tourbillonnante, comme si c'était le flanc d'une montagne, des cavaliers approchaient. Au début, le cocon de brouillard interdit à Rand de les voir en détail. Mais ils furent bientôt assez près pour que ce soit possible, à la profonde stupéfaction du jeune homme. Car il connaissait chacun de ces hommes et chacune de ces femmes. Des guerriers et des guerrières, pas tous en armure, leurs armes et leurs vêtements racontant à eux seuls toute l'histoire du monde. Des héros qu'il connaissait tous. Rogoche à l'œil d'aigle, un homme aux vénérables cheveux blancs et au regard vif qui rendait inutile toute explication au sujet de son surnom. Gaïdal Kane, un colosse qui portait dans le dos une épée plus longue que bien des hommes son haut. Birgit aux cheveux d'or, avec son arc d'argent et son carquois rempli de flèches du même métal. Tant de glorieux personnages dont Rand connaissait le visage et le nom. Les noms, plutôt, car il en entendait retentir cent dans sa tête pour chaque cavalier qu'il voyait. Des noms parfois si exotiques qu'il ne les aurait pas reconnus comme tels s'il n'avait pas su. Michael au lieu de Michael. Patrick au lieu de Paidrig. Oscar au lieu d'Otarin. Et l'homme qui chevauchait en tête, celui-là aussi il le connaissait. Un géant au nez crochu, une longue épée baptisée Justice battant sur sa hanche. Arthur aile de faucon. Matt écarquilla les yeux lorsque l'héroïque colonne s'arrêta face à lui.
C'est tout ? Vous n'êtes pas plus nombreux ?
Une centaine tout au plus, estima Rand. Bizarrement, cela ne l'étonna pas, comme s'il avait toujours su qu'il en serait ainsi. Figé sur sa selle, Ourine avait les yeux qui lui sortaient de la tête.
« Il faut d'autres qualités que le courage pour lier un homme au corps. »
dit Arthur Aile de Faucon, de la voix calme et profonde d'un homme de pouvoir.
« Un homme ou une femme ?»
précisa Birgit.
« Ou une femme,
oui, » acquiesça Arthur.
« Une poignée de héros sont unis à la roue, suivant éternellement sa rotation pour exécuter sa volonté dans la trame infinie des âges. Tu pourrais expliquer tout ça à ton ami, Loustérine, si ses connaissances t'étaient accessibles lorsque tu habites de nouveau un corps. »
Rand vit parfaitement que le roi le regardait. Pour le principe, il secoua la tête, mais il refusa de perdre son temps en vaine polémique.
« Des envahisseurs sont là. Les Séanchaniens, ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes. Sur les champs de bataille, ils utilisent des Aes Sedai enchaînés. Arthur, il faut les rejeter à la mer. Il y a aussi une jeune fille, Egwene Alvere, une novice de la Tour Blanche captive des Séanchaniens. Tu dois m'aider à la libérer. »
Incongruement, plusieurs héros, derrière Arthur, se permirent un sourire en coin ou un gloussement. Tout en vérifiant que la corde de son arc était bien tendue, Birgit éclata de rire.
Loustérine, tu choisis décidément toujours des compagnes qui attirent les ennuis comme un aimant. »
Une remarque dépourvue d'agressivité. En fait, une plaisanterie complice, comme entre deux vieux amis.
« Je me nomme Rand Altor, et vous devez vous dépêcher. Le temps presse. »«
Le temps ?»
répéta Birgit avec un grand sourire.
« Nous avons tout le temps du monde, mon ami. »
Gaïdal Kane lâcha les rênes de son destrier, le guidant désormais par la pression de ses genoux, et dégaina deux épées. Les autres héros tirèrent leurs lames au clair, saisirent leur arc, leur hache ou leur lance. Justice brillait comme un miroir dans la main gantée d'Arthur.
« Je me suis battu à tes côtés d'innombrables fois, Loustérine, et je t'ai affronté en au moins autant d'occasions. La roue tisse nos vies afin qu'elles servent ses intérêts, pas les nôtres, et assure la pérennité de la trame. Si tu ne te connais pas toi-même, je te connais bien. Et nous chasserons ces envahisseurs pour toi. »
Le destrier d'Arthur piaffa, mais son maître regarda autour de lui, perplexe.
Quelque chose ne va pas. Comme si j'étais retenu par...
Arthur riva son regard perçant sur Rand.
Tu es là, mais as-tu ton étendard ?
Des murmures coururent dans les rangs des héros.
Je l'ai,
répondit Rand. Il ouvrit le rabat d'une de ses sacoches de sel, le déchirant, et sortit l'étendard du dragon. Alors qu'il lui emplissait les mains, son ourlet pendant au niveau d'un genou de rouquin, les murmures gagnèrent en intensité dans la colonne de revenants.
« La trame s'enroule autour de notre cou comme un licol, » dit Arthur. « Tu es là, et l'étendard aussi. Le motif de cet instant est tissé. Nous sommes venus pour le corps, mais c'est l'étendard que nous suivrons. Et le dragon. »
Ourin eut une sorte de couinement étranglé.
« Que la lumière me brûle !»
s'écria Matt.
« C'est vrai ! Bon sang, c'est vrai !»
Après une très brève hésitation, Perrine sauta de sa selle et s'enfonça dans le brouillard. Un bruit sec retentit, quelques instants passèrent, et l'apprenti forgeron revint avec une branche de sapin bien droite et proprement élaguée.
« Donne-moi l'étendard, Rand. S'ils en ont besoin, donne-le-moi. »
Rand aida son ami à attacher le drapeau à la hampe improvisée. Lorsque Perrine remonta en selle, brandissant l'étendard, une mystérieuse brise qui resta sans effet sur la brume le fit onduler, donnant l'impression que le dragon bougeait comme s'il était vivant.
« Ourin, tu nous attendras ici, » dit Rand. « Quand ce sera fini, eh bien, ici tu ne risqueras rien. »
Ourin dégaina son épée courte, comme s'il pensait qu'une telle arme puisse être d'une quelconque utilité à un cavalier.
« Toutes mes excuses, seigneur Rand, mais n'y compte pas. Je n'ai pas compris le dixième de ce que j'ai entendu, ni de ce que j'ai vu. Mais je suis venu jusqu'ici. » Et j'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout du chemin. »
Arthur, aile de faucon, flanqua une grande claque sur l'épaule du renifleur.
« Parfois, la roue nous envoie des renforts, mon ami. Qui sait, peut-être chevaucheras-tu parmi nous un jour. »
Ourin se redressa sur sa selle, comme s'il venait d'être adoubé. Arthur, lui, s'inclina à l'intention de Rand.
« Avec ta permission, seigneur Rand. Sonneur, veux-tu bien nous faire entendre la musique du corps de Valère, la mieux choisie pour nous lancer dans la mêlée? Et toi, porte-étendard, auras-tu la grâce de nous ouvrir la route? »
Matt souffla de nouveau dans le corps, très longtemps et très fort. La brume tout entière en résonna. Puis Perrine talonna son cheval. L'épée au héron dégainé, Rand avança, flanqué de ses deux amis. Il ne voyait rien, à part un rideau de brume blanche. Et pourtant, il continuait inexplicablement à suivre le déroulement des événements. À Falme, où quelqu'un utilisait le pouvoir pour frapper les rues et le port, au sein de l'armée séanchanienne et au cœur de la légion agonisante de Fils de la Lumière. Tout cela flottant au-dessus ou au-dessous de lui, sans que rien ait changé d'un iota. À croire que le temps s'était figé depuis que Matt avait soufflé pour la première fois dans le corps. Pourtant, des minutes s'étaient écoulées avant que les héros répondent à l'appel. Mais quoi qu'il en soit, tout se remettait en mouvement. Le cri sauvage que Matt tirait maintenant du corps fit écho au roulement de tonnerre des sabots, alors qu'une centaine de chevaux se lançaient au galop. Rand chargea à la tête de ses forces, se demandant s'il savait où il allait. Autour de lui, la brume s'épaissit encore, occultant les uns après les autres les rangs de héros qui chevauchaient vers la bataille. Très vite, Rand ne vit plus que ses trois amis. Couché sur l'encolure de son cheval, Ourin l'encourageait à accélérer encore. Sans cesser de sonner du corps, Matt parvenait à rire aux éclats. Ses yeux jaunes brillants, Perrine brandissait l'étendard comme s'il était né pour ça. Puis Rand prit un peu d'avance et ne distingua même plus ses trois compagnons. Ainsi, il chevaucherait seul, en ce jour terrible? Pas vraiment, car d'une certaine façon, il distinguait toujours les trois hommes. Mais de la manière impossible dont il voyait Falm et les Séanchaniens, sans savoir où ils étaient ni où il se trouvait lui-même. Serrant plus fort son épée, il sonda de nouveau le rideau blanc de brouillard. Si étrange que ce soit, il chargeait seul dans la brume, et cela semblait normal, comme s'il avait dû en être ainsi depuis toujours. Soudain, Baal Zamon se dressa devant lui dans la brume, les bras en croix. Rouquin se cabra, désarçonnant son cavalier. Alors qu'il volait dans les airs, Rand serra très fort son épée, afin que l'impact avec le sol ne le force pas à la lâcher. Mais l'atterrissage n'eut rien de brutal. En réalité, c'était comme se recevoir sur absolument rien. Un instant en vol plané, celui d'après sur le sol, sans transition ni traumatisme. Lorsque Rand se fut relevé, il constata que son cheval n'était plus en vue. Baal Zamon, là et bien là, avançait vers lui, un bâton carbonisé entre les mains. Deux adversaires face à face dans le brouillard,
et plus rien qui existât. Derrière le père des mensonges s'étendait une zone d'ombre. Non parce que le brouillard était noirci, mais parce que cette obscurité l'avait d'une façon ou d'une autre anéanti. Comme précédemment, Rand voyait sur plusieurs niveaux. Quelque part, Arthur, Aile de Faucon et les autres héros affrontaient les Séanchaniens au cœur d'un brouillard à couper au couteau. Portant toujours l'étendard, Perrine jouait de la hache pour tenir ses ennemis à distance, mais sans vraiment chercher à les blesser. Matt sonnait toujours du cor, et Ourine avait sauté de selle pour se battre avec son épée courte et sa dague, comme on le lui avait appris. Avec leur écrasante supériorité numérique, les Séanchaniens auraient dû réduire en bouillie une centaine de combattants. Pourtant, c'était eux qui se débandaient. Rand avança à la rencontre de Baal-Zamon. À contre-cœur, il accepta le vide, puisa dans la source authentique et s'emplit de pouvoir. C'était le seul moyen. Peut-être n'avait-il aucune chance contre le ténébreux, mais s'il en avait une, il fallait passer par le pouvoir. Cette force qui déferlait dans ses membres, se communiquant à ses vêtements, son épée, tout ce qui l'entourait. Il aurait juré qu'il brillait plus fort que le soleil. Et cela le terrorisait, lui donnant envie de vomir.
« Écarte-toi de mon chemin! Je ne suis pas ici pour toi !»«
La fille ?» ricana Baal-Zamon. Des flammes rugirent dans sa bouche. Ses brûlures étaient guéries, laissant quelques rares cicatrices roses qui s'estompaient déjà. Ainsi, il avait l'air d'un fort bel homme dans la force de l'âge. Si on oubliait ses yeux et sa bouche.
« Mais laquelle, Loustérine ? Cette fois, tu n'auras personne pour t'aider. Tu m'appartiendras ou tu mourras. Et si tu meurs, tu seras également à moi. »«
Menteur ! »
cria Rand. Il abattit sa lame, mais le bâton de Baal-Zamon la dévia dans une gerbe d'étincelles.
« Père des mensonges !»«
Crétin fini ! Les imbéciles que tu as invoqués ne t'ont-ils pas dit qui tu étais ?»
Le ténébreux eut un éclat de rire enflammé, littéralement. Même dans son cocon de vide, Rand eut un frisson glacé.
« Aurait-il pu mentir ? Je ne veux pas être le dragon réincarné !»
Rand serra plus fort son épée et repartit à l'attaque. Écarté la soie. Hélas, le bâton de Baal-Zamon paraît chaque coup, toujours dans un jaillissement d'étincelles qui rappelait ce qu'on pouvait voir dans une forge.
« J'ai une mission à Falm, et elle n'a aucun rapport avec toi. Comme toujours. »
« Il faut que je détourne son attention jusqu'à ce que mes amis aient libéré Egwene. »
Toujours contre toute logique, il suivait le déroulement de la bataille, qui se concentrait désormais directement devant la ville.
« Sinistre idiot, tu as soufflé dans le corps de Valer et te voilà lié à lui. Crois-tu que la vermine de la Tour Blanche te lâchera maintenant ? Ces femmes te mettront autour du cou des chaînes dont tu ne te débarrasseras jamais. »
Rand fut tellement surpris qu'il s'en aperçut même dans le vide du cocon.
« Il ne sait pas tout. Il ignore qui a soufflé dans le corps. »
Certain que sa stupéfaction se lisait sur son visage, Rand redoubla ses efforts afin de détourner l'attention de Baal-Zamon. Le baiser du colibri à la rose jaune, la lune sur l'eau, l'envol de l'hirondelle. Des éclairs naquirent du contact entre la lame et le bâton, scintillant jusque dans le cœur de la brume. Contre toute attente, Baal-Zamon recula, ses yeux plus embrasés que jamais. Du coin de son œil mental, Rand vit les Séanchaniens battre en retraite dans les rues de Falm. Les Damanes se déchaînaient, éventrant la terre avec le pouvoir de l'unique. Mais leur maléfice ne pouvait rien contre Arthur Aile de Faucon et les autres héros du corps de Valère.
« Veux-tu rester à jamais un cafard caché sous une pierre ?»
lança Baal-Zamon. Derrière lui, l'obscurité ondulait et bouillonnait.
« Tu es en train de te tuer. Le pouvoir te consume, te ronge comme un acide et te tue. « Je suis le seul en ce monde qui puisse t'apprendre à le contrôler. Serre-moi ou meurs !»«
Te servir ? Jamais !»«
Il faut que je le retienne assez longtemps. Dépêche-toi, Aile de Faucon !»
Rand attaqua de nouveau. La colombe prend les airs, la feuille qui tombe. Cette fois, ce fut lui qui dut reculer. Voyant que les Séanchaniens continuaient à battre en retraite, il ne baissa pas les bras. Le martin-pêcheur prend un poisson doré. Alors qu'Arthur et Perrine menaient côte à côte la charge, les Séanchaniens se dispersaient, affolés. Le faisceau de paille. Balzamon para le coup dans un vortex d'étincelles, et Rand dut sauter au dernier moment pour éviter que le bâton lui fende le crâne, le souffle du coup lui ébouriffant les cheveux. Les Séanchaniens contre-attaquaient. Le coup de l'étincelle. Encore une esquive de Balzamon, mais les Séanchaniens étaient forcés de se replier vers le port. Rand aurait voulu hurler de joie. Sans savoir pourquoi, il venait de comprendre que les deux affrontements étaient liés. Lorsqu'il gagnait du terrain, les héros d'Arthur repoussaient les Séanchaniens. Quand il en perdait, les envahisseurs reprenaient du poil de la bête.
« Personne ne te sauvera !» dit Balzamon. « Celles qui auraient pu le faire traverseront bientôt l'océan d'Arit. Si tu les revois un jour, elles porteront un collier et te détruiront pour plaire à leur nouveau maître.
Egwene, je ne peux pas l'abandonner à un tel sort.
Rand, Altor, tu n'as qu'une chance de salut. Oui, Loustérine fléau de sa lignée, je suis ton seul espoir. Serre-moi et je t'offrirai le monde. Résiste-moi et je te détruirai comme je l'ai si souvent fait par le passé. Mais cette fois, j'écrabouillerai jusqu'à ton âme afin que tu ne reviennes plus jamais. J'ai encore gagné, Loustérine. »
Cette pensée dérivait à l'extérieur du vide. Rand dut pourtant faire un effort pour l'ignorer et oublier les multiples vies à la fin desquelles il l'avait entendue. Il leva son épée et Balzamon prépara son bâton. Pour la première fois, Rand s'avisa que son adversaire agissait comme si l'épée au héron risquait de le blesser. L'acier ne peut rien contre le ténébreux. Pourtant, Balzamon regardait l'arme avec une méfiance non feinte. Ne faisant qu'un avec sa lame, Rand en sentait toutes les particules. C'est infiniment petit, invisible à l'œil nu. Et il sentait le pouvoir passer de son corps à l'épée, en utilisant pour cela les canaux complexes imaginés par les Aes Sedai à l'époque de la guerre du pouvoir. Soudain, il entendit une autre voix que la sienne, celle de l'âne.
« Un temps viendra bientôt où tu devras atteindre ton objectif à n'importe quel prix, y compris ta vie. »
Puis celle d'Ingtar.
« Tout homme a le droit de choisir l'instant où il remet l'épée au fourreau, mon ami. »
Il imagina ce que serait l'existence d'Egwene si elle la passait dans la peau d'une damane avec un collier autour du cou. « Les fils de ma vie qui risquent d'être coupés. » « Egwene, si Aile de Faucon entre à Falme, il peut sauver mon ami. » Avant même de l'avoir consciemment décidé, Rand exécuta la première figure du héron qui traverse les joncs. En équilibre sur un pied, la lame levée, une invitation à se faire embrocher. La mort est plus légère qu'une plume, et le devoir plus écrasant qu'une montagne. Balzamon dévisagea son adversaire.
« Pourquoi ce sourire de demeurer ? Ignores-tu que je peux te détruire définitivement ? »
Rand éprouva une sérénité encore supérieure à celle que lui conférait le vide.
« Je ne te servirai jamais, père des mensonges. En un millier de vies, je ne l'ai pas fait. J'en ai la certitude. Viens, il est l'heure de mourir. »
Balzamon écarquilla les yeux. Un instant, la fournaise fit ruisseler de sueur le front de Rand. Derrière le père des mensonges, l'obscurité se mua en un vortex bouillonnant.
« Alors crève, vermine !»
cria Balzamon en frappant avec son bâton comme s'il s'agissait d'une lance. Rand cria quand la pointe traversa sa chair, brûlant comme s'il venait d'être embroché au bout d'un tisonnier chauffé à blanc. Le cocon en fut ébranlé, mais il le soutint avec ce qui lui restait de force. Puis il enfonça sa lame dans le cœur du père des mensonges. Balzamon hurla, et l'obscurité, dans son dos, se joignit à son cri. Puis le monde explosa dans un déchaînement de flammes.